bonjour à tous. Des yeux pétillants, un sourire immuable, une gentillesse légendaire. Les hommages se succèdent au lendemain de la mort d'Annie Cordy, la célèbre interprète de Tata Yo-Yo est morte hier à l'âge de 92 ans. La chanteuse et comédienne a fait un malaise chez elle près de Cannes. Ma peine est immense, a posté Evelyne Renaud hier soir sur Twitter. Le Premier ministre Jean Castex lui a également rendu hommage sur les réseaux sociaux. Un policier tué hier soir à Villeneuve-d'Ascq en pleine intervention dans un accident. Il intervenait pour un vol avec effraction et a été percuté par une conductrice alcoolisée. La voiture de police n'était a priori pas visée. Le policier qui se trouvait à la place du passager est mort sur le coup. Son collègue qui conduisait la voiture a été blessé, tout comme la conductrice transportée elle aussi à l'hôpital. Une affaire qui relance le débat sur la fin de vie. À Dijon, Alain Coq a stoppé son traitement. Il a également cessé de s'alimenter. Cet homme de 57 ans est atteint d'une maladie incurable. Il avait interpellé sans succès Emmanuel Macron pour obtenir le droit de mourir par prescription médicale, une disposition pourtant prévue dans la loi Leonetti, mais uniquement quand le pronostic vital est engagé à court terme, ce qui n'est pas le cas ici. 9000 cas enregistrés en 24 heures, c'est le dernier bilan de Santé publique France. Nouveau rebond de l'épidémie dans le pays. La préfecture du Nord a décrété la fermeture des bars et restaurants à partir de ce soir minuit à Lille. Décision justifiée par le préfet après un relâchement des gestes barrières. En foot, la rencontre de Ligue des Nations prévue lundi entre la République tchèque et l'Écosse a été reportée. Les Bleus, eux, joueront bien ce soir. Ils affrontent la Suède à Stockholm à 20h45. Premier match de la Ligue des Nations pour les hommes de Didier Deschamps. Hier, le deuxième gardien, Steve Mandanda, a dû quitter le groupe. Il a été testé positif au coronavirus. Et puis, cap sur les Pyrénées pour les coureurs du Tour de France. Huitième étape aujourd'hui entre Cazères-sur-Garonne et Loudenvielle. Le maillot jaune est toujours sur les épaules du Britannique Adam Yates. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Excellente journée à tous.
Samedi 5 septembre, Hénin Beaumont, c'est la fête du sport. On met le maillot, le short et les baskets et direction l'espace François Mitterrand, ainsi que sur le site de Decathlon dans la ZAC du bord des eaux entre 9h30 et 19h pour découvrir pas moins de 30 sports différents. Un événement à vivre en direct sur Radio Plus.
Et nous voilà de retour à l'occasion de cette fête du sport, toujours en direct jusqu'à 16h sur Radio Plus. Ça, c'est bientôt la mi-temps, ou plutôt la pause repas que nous allons vivre dans quelques instants. Mais nous avons encore quelques invités à vous faire découvrir en ce milieu de matinée. Et on a beaucoup, beaucoup de chance, hein, parce que on a aussi le plaisir de rencontrer des sportifs dont le palmarès n'est plus approuvé. On vient d'avoir Jérémy Cadeau en escrime il y a quelques instants, vice-champion olympique en 2016. Et nous avons à présent avec nous Mona Mestian. Bonjour.
Bonjour.
Mona, qui est boxeuse et qui a là aussi un sacré palmarès. 115 combats pour 83 victoires et un match nul. 3 fois championne de France, 2 fois médaillée de bronze au championnat d'Europe et qualifiée également pour les JO de Tokyo. Les qualifications sont en cours plutôt et on va en parler parce que là aussi c'est assez spécifique avec ce report en 2021. On aura évidemment l'occasion d'en savoir plus dans quelques minutes. Mais je ne déroge pas à la règle de la première question, à savoir comment est-ce que vous avez découvert la boxe ?
Alors, j'ai commencé la boxe à l'âge de 7 ans. J'ai découvert la boxe, en fait, grâce à un ami, en fait, en primaire. J'ai commencé par le pied-point. Mmh. Et après, je me suis déviée vers la boxe anglaise, car je rêvais des Jeux Olympiques déjà toute petite. Et seulement cette discipline était possible pour participer aux Jeux Olympiques, en fait.
Très bien. Alors, cette discipline, vous avez grandi dedans, vous avez évolué, vous êtes devenue une championne, reconnue aussi. Alors, justement, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur les faits marquants de votre palmarès. Je l'ai cité tout à l'heure. La première victoire, vous vous en souvenez forcément. Est-ce que vous pouvez nous raconter ?
Oui, ben en fait, ce qui m'a le plus marqué dans ma carrière pour le moment, c'est vraiment mon premier titre, enfin ma première médaille au championnat d'Europe en 2018, car je l'ai faite dans une catégorie au début, enfin inconnue, parce que je suis passée de 51 kilos à 54 kilos, puis en 57, là où j'ai vraiment brillé. Sinon, après, c'est sûr que le fait d'être championne de France, ça c'est vraiment quelque chose également. Et du coup, voilà.
Tu as aussi pris part aux Jeux européens, qui sont une échéance nouvelle maintenant dans le paysage sportif international. Il y a cette ambiance de mini-village olympique. Est-ce que ce serait possible de nous raconter un peu comment on se ressent quand on fait partie de cette délégation française aux Jeux européens ?
Alors oui, c'est clair que l'année dernière, j'ai eu la chance et j'ai pu participer aux Jeux européens. Donc, du fait que je me suis qualifiée, en fait, parce que pour participer à ces Jeux, il faut vraiment se qualifier au préalable. Et c'est clair que de faire partie de ce village olympique, c'est vraiment quelque chose pour un athlète de haut niveau. C'est un mini-Jeux olympiques, en fait. Et rien que participer à la cérémonie d'ouverture, de voir tous les bénévoles, toutes les personnes qui sont à fond avec nous, ça fait vraiment chaud au cœur et les étoiles dans les yeux, j'en ai vraiment eu énormément.
Ça a renforcé un peu cette envie, cette ambition d'aller à Tokyo l'année prochaine ?
Oui, carrément. Déjà, je voulais vraiment aller à Tokyo cette année. Après, malheureusement, avec l'épidémie, il faudra attendre encore un an. Mais oui, c'est certain que se dire que ça sera encore plus grand, c'est super.
On va revenir justement sur cette saison particulière avec le confinement qui a tout interrompu en fait avec cette préparation au JO. Tout d'abord, comment est-ce que vous avez vécu l'arrêt de la pratique sportive ?
Écoutez, c'était super difficile pour nous les boxeurs, car en fait, pour l'équipe de France et pour toutes les équipes étrangères, on était en pleine qualification, tournoi de qualification du coup européen à Londres. Et moi, j'avais déjà commencé ma compétition, j'avais déjà débuté, j'avais boxé, donc le premier combat, je l'avais remporté. Il me restait encore deux combats pour me qualifier. Et le jour de mon anniversaire, le 17 mars, on nous informe qu'on arrête toute la compétition et qu'on doit rentrer dans notre pays respectif. Donc c'est vrai que c'est un choc pour tout athlète. Il y a eu des pleurs. Après, pour d'autres athlètes, ça a été une chance parce que peut-être qu'ils se sentaient pas bien à ce niveau-là. Moi, pour ma part, j'étais vraiment au taquet. J'étais bien dans ma tête. J'étais bien physiquement. Tous les feux étaient verts. Après, il m'a fallu un temps avant de le digérer. En pensant que ça allait se faire les mois précédents, seulement, on a eu l'annonce du ministre japonais et du CNOSF comme quoi les Jeux auraient été décalés à un an. Donc c'est un peu compliqué. Là, on se remotive à fond pour repartir, mais l'épidémie, provoque beaucoup de problèmes et on sait vraiment pas comment ça va se passer à l'avenir.
Comment est-ce qu'on arrive justement à garder la motivation ? On vient d'avoir avec nous, juste avant vous, Jérémy Cadeau, qui lui nous expliquait que finalement, le confinement a eu l'effet inverse. Il était mal embarqué dans son tournoi de qualification olympique. Il pensait déjà arrêter, puis finalement, ça a été un déclic. Alors, comment est-ce qu'on lutte contre le blues qu'il peut y avoir et qui est légitime quand ce pourquoi on se motive au quotidien, vous disiez tout à l'heure que votre rêve olympique il date de bien avant 2020 et même 2021. Comment est-ce qu'on fait pour pas perdre la flamme ?
On essaye de se remémorer pourquoi on fait de la boxe, pour ma part, et pourquoi on veut vraiment aller aux Jeux Olympiques. Après, pour moi, ce qui me tient vraiment, c'est que depuis l'âge de 7 ans, je rêve des Jeux Olympiques. Ça a toujours été un rêve de gosse. Là, je tiens vraiment du bout des doigts ma qualification, étant donné qu'en plus, j'ai démarré la compétition. Il me reste plus que deux combats pour me qualifier. Je connais mes adversaires. Donc ça, c'est vraiment une chance également, même pour elle, vu qu'elle travaille vraiment sur mon cas, j'imagine. Après, du coup, j'ai pas le droit de lâcher parce que je me dis que, je suis arrivée là, il a fallu beaucoup, beaucoup de travail. Donc, ça serait vraiment dommage d'arrêter, de baisser les bras. Donc, j'ai pas le choix, en fait. C'est vraiment, j'ai pas le choix. Là, il faut que je reste focus, même si c'est vraiment pas facile. Après, on va voir comment ça se passe avec l'épidémie. Mais pour le moment, j'attends l'objectif vraiment de la date qui soit figée pour le prochain tournoi, du coup, qui va continuer.
Vous nous disiez, j'ai ce rêve olympique depuis que j'ai 7 ans. Comment est-ce qu'il est né, ce rêve? Pourquoi finalement, enfin, qu'est-ce qui a fait que les Jeux olympiques vous attirent au point de vous dire, je vais me battre et donner tout ce que j'ai pour un jour avoir mon nom sur la liste des athlètes qui ont participé aux Jeux olympiques?
Ben en fait, déjà, je viens d'un milieu très sportif, car mes parents faisaient du sport. J'ai toujours baigné là-dedans. Et quand j'étais petite, je regardais à la télé les Jeux Olympiques. Et vraiment, j'avais des étoiles dans les yeux quand je voyais les athlètes, tout sport confondu. Je me suis dit, un jour, c'est moi qu'on va voir à la télé. Ce sera mon tour d'y participer. Et après, du coup, je me suis lancée dedans et j'ai gravi les échelons peu à peu. Et je vois maintenant que je peux vraiment atteindre ce rêve. Donc voilà d'où mon ambition, en fait.
Clément, tu avais une question?
Oui, pendant cette période de 2 mois qui a été très compliquée pour tout le monde, oui. Comment vous avez fait pour vous maintenir physiquement en forme? Quelle routine d'entraînement vous aviez?
Oui, c'était très très compliqué, surtout que moi je vis dans un appartement. Heureusement j'ai un balcon, mais c'était assez compliqué. J'avais des routines, tous les jours je faisais du renforcement musculaire. J'ai la chance d'avoir un compagnon qui me suit, un ancien sportif de haut niveau aussi, qui me permet de me donner la leçon, par exemple les PAO, pour rester vraiment dedans. Ensuite je faisais aussi de la préparation mentale, j'en avais vraiment besoin. Donc voilà en fait comment se passaient mes journées.
Et puis on imagine aussi l'entraînement a repris en salle.
Oui.
Il y a ce club d'Hénin Beaumont qui performe vraiment pas mal avec son lot de champions, son lot de sportifs de très haut niveau. Racontez-nous justement un petit peu l'ambiance qui règne au Boxing Club d'Hénin Beaumont.
C'est vrai que au club d'Hénin Beaumont, il y a énormément de champions qui sont passés et qui sont encore là. L'ambiance est plutôt familiale. On transmet en fait les rênes petit à petit. Au début, on avait Karim Chaki, même Nordine Oubali qui a fait les Jeux Olympiques, Mathieu en 2016. Maintenant, j'espère que c'est à mon tour d'y aller. Ensuite, on a Oshin, donc une grande copine à moi qui est par contre elle dans le milieu professionnel. Mmh. Et qui essaie aussi de se qualifier, donc avec par contre la Belgique.
Oui.
Donc voilà.
Parce qu'on va rappeler que la particularité pour participer aux Jeux Olympiques en boxe, c'est d'avoir le statut amateur, hein, c'est ça?
Oui, exactement. Les professionnels peuvent à partir de 2016 concourir pour les Jeux Olympiques, par contre.
Et le professionnalisme, c'est quelque chose auquel vous avez pensé dans votre pratique?
J'y ai pensé. Mais je pense pas faire une carrière professionnelle. J'ai eu quelques blessures en fait révélées l'année précédente et je pense que ça va pas être possible pour ma part.
Comment est-ce qu'on concilie justement la vie sportive de haut niveau avec la vie au quotidien de travailleuse, de vie de famille aussi, hein, puisque vous avez un compagnon. Ouais. On imagine aussi que là c'est beaucoup de sacrifices.
Oui, c'est beaucoup de sacrifices. C'est vrai, depuis toute petite je suis baignée dans le sport de haut niveau, donc après je connais que ça pour le moment. C'est vrai que j'ai la chance d'avoir mon compagnon qui connaît aussi ce milieu, car il était ancien cycliste professionnel. C'est vrai que c'est pas facile parce qu'il y a des moments où on a envie de tout mettre en l'air en fait, et à d'autres moments on a besoin de soutien psychologique parce que c'est pas facile, on est loin de notre famille. Je parcours un peu les quatre coins du monde parce que je voyage énormément, donc je suis pas toujours chez moi, mais on sait pourquoi on le fait et voilà, c'est comme ça.
Si un jeune nous écoute, peut-être âgé de 7 ans, qui se dit peut-être pourquoi pas les Jeux Olympiques, plus sérieusement, qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui cherche un sport et qui se tournerait peut-être vers la boxe? Qu'est-ce que ça vous a apporté, vous, la boxe?
Moi, la boxe, vraiment, ça m'a apporté énormément de choses. Pour moi, c'est le respect, c'est super important. Même c'est une éducation pour moi, la boxe, car j'ai appris à prendre énormément confiance en moi. L'estime de soi également, après les valeurs de la boxe, hein, donc le respect, la dignité, enfin plein de choses. Et franchement, la boxe c'est un sport complet qui permet déjà de s'épanouir et de se révéler.
L'objectif 2020-2021, il y en a qu'un seul finalement, c'est Tokyo.
Oui, c'est ça. C'est vraiment Tokyo 2021 maintenant qui m'intéresse.
Très bien. Eh bien, on vous souhaite évidemment le meilleur, Mona, dans ce rêve olympique. On vous souhaite d'aller le plus loin possible. Et déjà, ça passe évidemment par les qualifications. Est-ce qu'on a déjà les dates des échéances à venir ?
Normalement, à moins d'un changement, ce serait fin février.
Fin février. Eh bien, on manquera pas de suivre le résultat et d'en parler sur notre antenne. Mona Mestien, merci d'avoir été notre invitée ce midi à l'occasion de la fête du sport à Hénin-Beaumont.
Merci à vous. Au revoir.
Le samedi 5 septembre, Hénin-Beaumont, c'est la fête du sport. On met le maillot, le short et les baskets et direction l'espace François Mitterrand, ainsi que sur le site de Decathlon dans la ZAC du bord des eaux entre 9h30 et 19h pour découvrir pas moins de 30 sports différents. Un événement à vivre en direct sur Radio Plus.
Une photo, une date, c'était n'y pas croire. C'était pourtant hier, mentir et ma mémoire, et ces visages d'enfants, et le mien dans ce miroir. Oh, c'est pas pour me plaindre, ça vous n'avez rien à craindre. La vie m'a tellement gâtée, j'ai plutôt du mal à l'éteindre. Oh mon Dieu, j'ai eu ma part, et bien plus à tant d'égards. Mais quand on vit trop beau, trop fort, on en oublie le temps qui passe. Comme on perd un peu le nord au milieu de trop vastes espaces. À peine le temps de s'y faire, à peine on doit laisser la place. Ou si je pouvais, encore un soir, encore une heure, encore une larme de bonheur, une faveur. Une fleur, un souffle, une erreur. Un peu de nous, rien de tout. Pour tout se dire encore ou bien se taire en regard. Juste un report, à peine encore. Même s'il est tard. J'ai jamais rien demandé, ça c'est pas la mer à boire. Allez, face à l'éternité, ça va même pas se voir. Ça restera entre nous, au juste un léger retard. Il y en a tant qui tuent le temps, tant et tant qu'ils le perdent ou le passent. Tant qu'ils se mentent, inventant les rêves en des instants de grâce. Où je donne ma place au paradis, si l'on m'oublie sur terre. Encore hier, encore un soir, encore une heure, encore une larme de bonheur, une faveur, comme une fleur, un souffle, une erreur, un peu de nous, rien de tout, pour tout se dire. Un report, à peine encore. Je sais, il est tard. C'est pas grand chose, rien qu'une pause. Que le temps, les horloges se reposent. Et caresser, juste un baiser. Un baiser. Encore un soir, encore une heure, un peu de nous, un rien de tout.
Radio Plus, encore plus proche de vous. Émission spéciale avec vos animateurs en direct. Toute une équipe mobilisée pour vous faire vivre les événements au cœur du bassin minier et de l'Artois. Radio Plus.
Et nous voilà de retour à l'occasion de cette fête du sport en direct midi 20 sur Radio Plus. On va vivre dans quelques instants les deux dernières interviews de la matinée. On va parler football et on va également parler badminton. Mais tout d'abord, place au football en compagnie de Clément et de son invité.
Et nous allons parler donc de l'Olympique Héninois Football. Bonjour, merci
Bonjour.
D'être avec nous.
Enchanté.
On est sur un club qui a quand même un passé. Dans la ville qui existe depuis 1964 et qui compte beaucoup de licenciés. Présentez-nous un petit peu ce club de football qui anime la ville.
Alors c'est le club de l'Olympique Héninois qui existe depuis 1964, qui était à l'origine du club féminin. Il faut savoir que c'était la première structure féminine appartenant à l'Olympique Héninois. De toute façon, vous pouvez le voir à la sortie du stade, René Coget, c'est le fondateur du club. Donc il a eu un très bon passé où ils étaient dans les clubs, dans les divisions régionales, même nationales, parce que c'était des divisions 1, 2, c'était. C'est un club très très populaire. On va dire que c'est le club populaire de la ville. Donc par rapport au quartier, etc., par rapport à la situation géographique aussi, où il se situe près du quartier de Kennedy. Donc ça reste un club très très populaire. Qui est accessible à tout le monde par rapport à la situation géographique et par rapport au passé. Ça a toujours été le club populaire où à l'époque le Stade Hénin était à un niveau très très élevé. Ça restait le club accessible pour les Héninois.
Donc cette saison vous allez évoluer en D3 district et vous avez des objectifs qui sont annoncés, vous voulez monter.
C'est ça, c'est l'objectif, on va pas dire c'est l'objectif numéro un, mais c'est l'objectif du club, en sachant que l'équipe première, c'est toujours la vitrine d'un club. Donc plus elle sera cohérente, plus ça attirera du monde, plus ça donnera de la visibilité sur le club. Faut pas se mentir, c'est un objectif. Le football, ça reste une compétition, donc l'objectif, c'est d'évoluer le plus haut possible. Il y a un projet qui a été mis en place, en senior et en jeune, comme moi je viens d'arriver cette année, j'étais déjà au club précédemment, mais je reviens cette année, je suis diplômé d'État. L'objectif, c'est de tout structurer, de récupérer tout ce qui a bien été fait déjà, d'améliorer et d'évoluer le plus haut possible.
Alors justement, vous l'avez dit, l'équipe première, c'est le fanion du club, l'ambition est affichée de monter, mais on sait aussi que pour que la montée puisse se réaliser, et si elle arrive, et ce qu'on vous souhaite, le maintien et le développement du club puisse se poursuivre, il faut aussi une bonne réserve, il faut aussi des bons jeunes. Alors qu'est-ce qui est prévu de ce côté à court et à moyen terme?
C'est ça l'objectif, donc le projet, le groupe senior est très très jeune. Donc ça reste un
moyenne d'âge de combien?
Ce sera une vingtaine d'années.
Ah oui, donc on est vraiment sur du
en
du
sachant
jeune,
que les jeunes qu'on a recrutés cette saison, c'était des jeunes qui ont été formés au club. Mm-hmm. Donc c'est qu'ils ont évolué à des clubs très très de niveau régional, donc de la R1, de la R2, et qui sont revenus au club. Donc la préparation a débuté au mois d'août. Nous avons intégré les jeunes U18 à la préparation, pour les préparer au niveau senior, pour qu'ils voient, pour qu'ils s'intègrent. Et le but, c'est ça, c'est de faire évoluer le maximum des Héninois à l'avenir en équipe première.
Alors, vous nous disiez tout à l'heure que votre club, c'est un peu le club populaire d'Hénin Beaumont, pour reprendre vos mots. Vous avez aussi cette volonté de travailler avec un groupe très jeune, de développer aussi cette jeunesse de groupe. Ça sous-entend qu'il faut des jeunes formés au club, pour prendre une expression footballistique. Est-ce qu'il y a encore cet esprit village, quartier dans les clubs de foot? Parce qu'on voit aussi de plus en plus au niveau amateur des pratiques, des primes de match, cette volonté de proposer des choses pour attirer des joueurs qui viennent de l'extérieur. Peut-être un peu au détriment justement de cet aspect formé au club. Est-ce que vous partagez mon avis? Et surtout, est-ce que aussi cet aspect label formé au club, c'est quelque chose qui vous tient à cœur?
Donc après on va pas se mentir, dans le football, même le niveau amateur, Il y a de l'argent qui rentre en compte. Nous, malheureusement et heureusement, on n'est pas encore à ce niveau-là. On est là, on attire. Le niveau fait que forcément, on ne parle pas d'argent.
Mais malheureusement, on en voit aussi parfois au niveau district. Alors des sommes très très modiques, mais on est d'accord, mais ça existe encore malheureusement.
On n'a pas de système de prime de match, on n'a pas de système de... c'est pas de récompense. La récompense, ça se fera peut-être autrement avec un repas à la fin, etc. Il faut que ça reste... familial, on va dire. Ça reste un club familial.
Clément.
Donc vous avez joué la semaine dernière votre premier tour de Coupe de France, que vous avez brillamment remporté. Il y a le deuxième arrive ce week-end. Est-ce qu'il y a cette volonté d'essayer de représenter un peu la ville au niveau régional, d'aller de faire un beau parcours en Coupe de France?
Bah oui, déjà, première chose, nous sommes le seul club de la ville d'Hénin encore en lice. Nous jouons une division supérieure ce week-end au stade de l'Abre. Oui, bien sûr, l'objectif, parce que la Coupe de France, pour tout footballeur amateur, ça reste, voilà, ça reste quelque chose de, même si nous savons qu'on n'a pas, on va pas aller au Stade de France, mais ça reste, voilà, une vitrine, ça permet d'attirer les gens, voilà, les curieux. Vous aurez peut-être pu voir ce week-end où la tribune était complète, malgré les mesures sanitaires. Voilà, pourtant, c'était juste un premier tour de Coupe de France. Voilà, la curiosité fait que, voilà, les gens viennent voir, et surtout, ça reste la compétition phare du football amateur. Même si c'est pas la plus importante, mais ça reste la compétition phare.
Et on espère toujours la qualification au quatrième tour pour avoir les jolis maillots.
C'est ça, voilà.
Si vous n'êtes pas encore en D2 District, c'est parce que voilà, l'année dernière aussi, il y a eu cette saison coupée dans le coronavirus et ce recalcul des points qui n'a pas forcément été bénéfique à l'Olympique Héninois.
Ouais, voilà. Donc là-bas, bon, sachant qu'on est dans une région où, voilà, les conditions climatiques sont compliquées, il y a beaucoup de reports, etc. Nous étions dans la région arageoise, donc forcément, voilà, ils ont pas les moyens que nous avons, ils ont pas de synthétique, les terrains sont fermés. Du coup, sur le prorata de match, la saison s'est terminée. Ils ont décidé de terminer la saison. Et malheureusement, on n'avait pas très bien débuté la saison, nous avons perdu quelques matchs, et ils ont fait le prorata sur le nombre de matchs et le nombre de points. Donc malheureusement, on est passé à la trappe, alors que je pense que sur la saison régulière complète, je pense qu'il y avait la possibilité de monter largement.
Mais est-ce que vous n'auriez pas craint, parce que c'est aussi une question qui s'est posée au niveau professionnel, qui pourtant a quand même moins de, qui a quand même beaucoup plus de dates disponibles que pour le foot amateur. Est-ce que vous n'auriez pas craint justement si une saison s'était prolongée, par exemple jusque mi-août, voire même fin août, d'être un petit peu pénalisé par les départs en vacances des uns et des autres, par la vie professionnelle qui reprend. Alors j'entends aussi que cette décision, elle est pas forcément toujours facile à comprendre, mais est-ce qu'il y a possibilité de faire autrement d'après vous finalement?
C'était compliqué. Après, voilà, ceux qui sont au plus haut, ils savent, ils gèrent. Ça, nous déjà, l'avantage c'est qu'on n'a pas, voilà, en termes financiers, ça nous impacte pas parce qu'on reste des clubs amateurs. Je pense qu'il y avait possibilité de faire autrement, peut-être mettre déjà les protocoles qui sont mis en place actuellement, mais c'est très très compliqué. Prolonger la saison en août, je pense que bah ils le savent, ils l'ont pas fait, c'était très très compliqué. Mais de toute façon, après, même si nous on était touchés, forcément les autres clubs le sont aussi. Donc non, je pense que ouais, c'était la meilleure décision. Malheureusement, ça nous pénalise. Si ça nous aurait favorisé, on aurait été content, on se serait pas plaint. Donc voilà, faut partir sur de nouvelles bases et
sur ce de motivation. Du coup, on l'imagine pour la saison prochaine.
Ouais, bien sûr, l'objectif c'est de monter. On a mis les moyens en place. Donc le groupe est cohérent, le groupe est jeune, le groupe a un bon niveau. Voilà, c'est l'objectif, voilà, c'est le montant des deux, et ensuite tout encore continuer à structurer pour que voilà qu'on ait un minimum un club d'Hénin Beaumont au niveau régional.
Eh bien, merci beaucoup d'avoir été notre invité pour parler de l'Olympique Héninois Football.
Le samedi 5 septembre, Hénin Beaumont, c'est la fête du sport. On met le maillot, le short et les baskets et direction l'espace François Mitterrand, ainsi que sur le site de Decathlon dans la ZAC du bord des eaux entre 9h30 et 19h pour découvrir pas moins de 30 sports différents. Un événement à vivre en direct sur Radio Plus.
Midi 30 sur Radio Plus, dernière interview de cette matinée en direct de la fête du sport, et on va délaisser le ballon de foot pour s'intéresser au badminton avec le Badminton Club d'Hénin Beaumont en compagnie de son vice-président Clément de Lubac. Bonjour.
Bonjour, merci pour l'invitation.
Eh bien, avec plaisir, mais bienvenue au micro de Radio Plus. Alors, quelques mots pour nous présenter ce Badminton Club héninois. Quelle est son histoire, quel est son historique?
Alors, le club a été créé en 2006. C'est un club tout jeune, du coup. Et depuis, on essaye au maximum de propager ce sport qui est un beau sport, en accueillant le maximum de personnes, que ça soit adultes ou avec l'école des jeunes qu'on pratique depuis 5-6 ans. Et voilà, on essaie de se développer tout doucement. Et puis, pourquoi pas devenir un club à forte affluence comme Arras ou Air-sur-la-Lys.
Un club qui se développe, qui accueille combien de licenciés à l'heure actuelle?
Alors, la saison dernière, on était à une 60aine de licenciés, enfants et adultes confondus, avec une grande affluence quand même pour les jeunes, une 30aine d'enfants par saison.
Très bien. Alors, même question pour les autres présidents de d'autres disciplines qui sont venus. À l'heure actuelle, le Covid, est-ce qu'il impacte, d'après vous, sur les inscriptions? Est-ce que déjà les inscriptions ont repris dans votre club? Et est-ce que vous sentez des interrogations, peut-être même des réticences à signer ou à re-signer une licence chez vous?
Alors, bien sûr, les entraînements ont repris depuis début août. On a eu l'autorisation par le service des sports de reprendre avec les mesures sanitaires mises en place par notre fédération. Cependant, non, j'ai pas trop de réticences. On a des personnes âgées d'une cinquantaine d'années qui re-signent, qui viennent s'entraîner, voilà, en respectant toutes les mesures qui sont mises en place.
Club tout jeune, club qui se développe en termes de palmarès, en termes de classement, en termes de division. Vous êtes situé où à l'heure actuelle?
Alors nous, on joue des interclubs, ce qui est des rencontres un peu comme le tennis. On est au niveau départemental, avec deux équipes présentes en interclub, une équipe en division 3 et une en division 5.
Et les objectifs pour cette saison, quels sont-ils?
De monter dans les deux divisions, je pense. On a de très bons joueurs à tout niveau, à tout âge, et je pense que on a un bon potentiel pour concurrencer les meilleures équipes de la région.
Alors tiens, justement, c'est aussi l'occasion de parler des particularités de ce sport, parce que c'est un sport individuel, mais c'est bel et bien le club aussi qui monte tout entier au gré des résultats. Comment ça se passe, l'évolution d'une division à l'autre, que ça soit montée ou descente du coup?
Alors, c'est un sport individuel, mais aussi par équipe, parce qu'il existe du double, où les interclubs, c'est un peu comme la Fed Cup au tennis, c'est des équipes et c'est sur un score de points. Donc, je pense que le badminton, c'est vraiment un sport où l'esprit d'équipe fait quelque chose, en fait. Je pense que on arrive à se motiver entre nous pour essayer de gravir les échelons et tout simplement se dépasser mentalement et physiquement pour atteindre un bon niveau, pardon. Et voilà, l'école des jeunes permet aussi de faire sortir des petites pépites, on va dire. Mmh. Ça fait 3 ans que j'entraîne, je suis diplômé et j'ai vu des petits progresser incroyablement en 2-3 années. Donc, du moment que le licencié est motivé et a envie de gagner, je pense que ça peut que bien aller pour lui.
Les qualités d'un bon joueur de bad, c'est quoi?
Il n'y a pas de qualité prérequise. En fait, il faut avoir un peu de mental, avoir une bonne endurance quand même, je pense. Et puis, il faut savoir bien réfléchir. C'est pas un sport de bourrin, comme on pourrait dire. Il faut savoir, il faut arriver à connaître le jeu de notre adversaire, à trouver ses faiblesses. Et voilà, en profiter et le mettre en difficulté le plus possible.
Alors, on a parlé de cette école des jeunes. On peut démarrer à partir de quel âge, le badminton?
Alors, nous, on accueille des enfants à partir de 5 ans jusqu'à l'adolescence, donc 17, 18 ans. Mais la plupart du temps, à partir de 15 ans, on accueille les jeunes sur les créneaux adultes, pardon, pour leur permettre de voir un niveau un peu plus élevé quand même et permettre de progresser plus facilement.
Alors, vous nous disiez aussi que vous êtes entraîneur diplômé. Combien de personnes peuvent encadrer dans votre club, puisque vous êtes le seul entraîneur?
Non, on est 3 entraîneurs affiliés par la fédération. On est tous diplômés d'État. Et voilà, c'est ce qui fait qu'il y a un système d'étoiles pour les clubs de badminton pour montrer leur importance. Et l'école des jeunes a 2 étoiles. Donc, ce qui est par rapport au nombre de personnes diplômées, aussi aux compétitions faites par les jeunes et aux résultats en tout genre.
Donc ça, ces étoiles-là, finalement, elles sont attribuées par les instances, ligues, instances départementales?
Exactement, c'est ça. Et chaque année, c'est recalculé par rapport... c'est des points, en fait. Mmh. Et voilà, notre objectif, ça serait au moins d'atteindre les 3 étoiles d'ici 2-3 ans, je pense.
Si on souhaite pratiquer le badminton chez vous, comment ça se passe? Qu'est-ce qu'il faut faire?
Alors, il faut venir au complexe François Mitterrand. Vous avez le droit à 2 essais avant de prendre une décision pour savoir si vous voulez vous licencier ou pas. Et voilà, une tenue de sport adéquate, on prête des raquettes pour les débuts, et voilà, c'est que de la motivation.
Que de la motivation et un sport à découvrir qui va vous apporter, on l'a bien compris, beaucoup de choses. Merci beaucoup Clément de Lubac d'avoir été avec nous, vice-président de ce badminton club. Hénin Beaumont, merci d'avoir été notre invité.
Radio Plus, encore plus proche de vous. Émission spéciale avec vos animateurs, en direct. Toute une équipe mobilisée pour vous faire vivre les événements au cœur du bassin minier et de l'Artois. Radio Plus.
Eh ben ça y est, c'est la mi-temps de cette journée consacrée à la fête du sport. Je vous rappelle que nous sommes en direct jusque 16h. On va reprendre l'antenne aux alentours de 13h15, me semble-t-il. En tout cas, on sera ravis de vous accueillir de nouveau et de vous faire découvrir différents sports, de vous présenter également différents sportifs de haut niveau qui seront à notre micro et qui vont se succéder. On parlera football et particulièrement la section féminine. On parlera de tennis ou encore de boxe et puis quelques portraits de sportifs à découvrir tout au long de cet après-midi jusque 16h. Alors, on vous laisse avec un peu de musique sur Radio Plus et nous, on se retrouve donc aux alentours de 13h15. Très bon appétit si vous êtes à table. Excellente journée et à tout à l'heure.